L'émission que vous allez écouter a été réalisée dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Durant 6 séances, les élèves délégués de 4e du Collège Vauquelin à Toulouse ont appris à réaliser une émission de radio. Cette émission, vous allez l'écouter dans un instant. Elle a été réalisée en partenariat entre Radio Mon País et l'association Média Commun Occitanie. Éduquer aux médias, au monde numérique et à la libre expression. On écoute tout de suite Mikado, l'émission des jeunes du Collège Vauquelin, enregistrée en direct à Radio Mon País.
Bonjour à tous, ici Mikado, la radio des ados.
Mikado, la radio des ados, la radio des ados.
Salut les gens, ici Mikado, la radio des ados.
Ici Mikado, la radio des ados.
Dame les gens, c'est Mikado, la radio des ados.
Salut, c'est Mikado, la radio des ados. On est en direct à Radio Mon País, à la Bourse du Travail. Aujourd'hui, nous, délégués de 4e du Collège Vauquelin, accueillons deux invités pour vous parler de l'histoire de l'informatique, d'Internet et du téléphone mobile.
Restez à l'écoute. Après ce morceau de soprano Mon Précieux, choisi pour vous, place aux interviews pour cette émission qui pète.
Les morceaux initialement diffusés lors du direct à Radio Mon País ont été ici enlevés pour des questions de droits d'auteur.
Toujours à l'écoute de Mikado, la radio des ados, nous venons d'écouter la chanson Mon Précieux de Soprano et nous enchaînons tout de suite sur notre premier thème, l'histoire de l'informatique avec Arnaud et Emma.
Nous accueillons maintenant notre première invitée, Madame Lirante. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Eh bien, je suis professeure de technologie au Collège Vauquelin et donc j'ai une petite connaissance technique, en tous les cas, de votre thématique d'aujourd'hui.
Nous aimerons tout d'abord savoir qui a inventé le premier ordinateur.
Alors, le premier ordinateur a été inventé, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine. Donc, c'était l'ENIAC, en fait, dénommé l'ENIAC. Mais vous avez peut-être entendu parler d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dans lequel était mis en scène Alan Turing. Est-ce que vous connaissez ?
Pas du tout.
Le film Imitation Game, donc je vous invite à le regarder, avec le projet Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était l'objectif, en fait, de déchiffrer les messages allemands.
Du coup, comment fonctionnait-il ?
Alors, ces ordinateurs, enfin, vous avez déjà démonté des ordinateurs chez vous, j'imagine ?
Non,
vous n'avez pas ouvert des ordinateurs, vous n'avez jamais vu à l'intérieur ce qu'il y avait. Donc, les petits composants, à l'époque, n'existaient pas. Donc, ces ordinateurs fonctionnaient, en fait, grâce à des lampes, en fait, qui remplaçaient les transistors d'aujourd'hui et les petits composants. Et du coup, pour qu'ils puissent fonctionner, il fallait beaucoup de place. Donc, c'était des ordinateurs qui prenaient des pièces entières. Et qui pesait très lourd aussi, donc qui fonctionnait, voilà. Pas du tout comme ceux d'aujourd'hui, mais dans le même principe, mais avec des composants plus anciens.
Combien a-t-il coûté ?
De l'époque, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on voit les ordinateurs qui sont bon marché, tout le monde peut en avoir un chez soi. À l'époque, c'était, on va dire, exceptionnel. C'était l'armée qui avait ces ordinateurs. On sait que l'armée avait des moyens financiers importants et voilà, on pouvait utiliser tout l'argent qu'on voulait du moment que ça puisse servir pour la nation. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un chiffrage possible en fait, de ce que ça a pu coûter.
Combien y en avait-il dans le monde ?
À l'époque, y en avait peut-être un, voire deux, je ne sais pas. Chaque armée, peut-être, j'imagine, avait envie d'avoir son propre ordinateur pour pouvoir essayer de combattre au niveau mondial les autres puissances. Donc, voilà, c'était la course un peu à celui qui aurait l'ordinateur le plus puissant.
À quoi pourrait ressembler l'ordinateur du futur ?
Alors, l'ordinateur du futur, eh bien, de plus en plus, les ordinateurs se réduisent en taille, s'augmentent en capacité. On pourrait imaginer que devant nous, on pourrait avoir un hologramme, on pourrait demander ce qu'on veut, et puis il ferait tout seul au lieu d'avoir un clavier sur lequel on taperait, j'imagine, peut-être.
Aujourd'hui, quels sont les projets innovants pour les ordinateurs ?
Alors, les ordinateurs, peut-être que c'est la mémoire, en fait. Essayer d'avoir le plus de mémoire possible. Donc, voilà, c'est peut-être les innovations techniques, la recherche, en tous les cas, qu'il y a aujourd'hui sur les ordinateurs.
Quelles sont les entreprises les plus à la pointe de la technologie ?
Alors, je pense que c'est IBM, aux États-Unis. qui sont vraiment très en avance, enfin en tous les cas qui sont très actifs sur ce genre de recherche.
Merci beaucoup Madame Lirande d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve tout à l'heure pour nous parler de l'histoire d'Internet.
Eh bien merci à vous.
Et maintenant écoutons le morceau Overwatch avec le youtubeur Squeezie, Natou, Angie, Cyprien et bien d'autres. Et dans un instant, la suite de notre émission spéciale high-tech.
Les morceaux initialement diffusés lors du direct à Radio Montpaïs ont été ici enlevés pour des questions de droits d'auteur.
De retour sur Radio Montpaïs 90.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Mikado, la radio des ados. Nous sommes allés interroger des collégiens sur ce qu'ils pensaient d'Internet et du téléphone du futur. Écoutez à présent notre micro-trottoir.
À quoi ressemblera le téléphone du futur ?
Plat avec plein de genres d'applications.
À quoi ressemblera le téléphone du futur pour vous ?
Il aura quand même un écran et il n'y aura pas de coque, il n'y aura rien, enfin, il sera un peu invisible.
À quoi ressemblera le téléphone du futur ?
À une table.
Des téléphones qui seront limite plus gros que ma tête.
Je pense que ça ressemblerait à une plaque. Et dès qu'on appuie sur un bouton, eh bien, ça affiche un écran virtuel où tu mets des coups de poing pour actionner les applications.
À quoi ressemble le téléphone du futur ?
Il sera fin et grand avec Internet et beaucoup d'applications.
Le téléphone du futur, je pense que ça sera un hologramme. Pour parler au téléphone, ça sera la personne s'affichera en hologramme devant toi.
MG, qu'est-ce que tu veux ?
Pour moi, c'est un téléphone où il y aura des hologrammes, en fait. Vous voyez, on pourra voir les écrans dans la vie et tout. Ça sera génial.
Je pense que le téléphone du futur ressemblera, qui sera invisible et avec beaucoup d'applications et qui sera petit.
En fait, moi, je pense que genre il volerait. Il serait toujours autour de nous et quand tu l'appelles, eh ben il vient direct à toi, tu vois. Tu pourrais pas le perdre, c'est géocalisé.
Un chien.
Et non, je sais, il serait même dans ta tête. Genre il y aurait des sortes de petits écrans et tout dans les yeux. Non mais.
D'accord.
Pour vous, à quoi ressemblera le téléphone du futur ?
Il volera.
Il ferait l'épaisseur d'une feuille. Et il y a plein d'options.
Le téléphone du futur ? Je pourrais imaginer un téléphone avec une diffusion d'un hologramme pour aller encore plus loin dans la communication et dans la visualisation de la personne avec qui on communique.
Pour vous, à quoi ressemblerait le téléphone du futur ?
Ce sera intégré à notre main et on pourrait comme ça, genre, si jamais on pourrait pas le perdre, il serait dans notre main et il y aurait une espèce de projection sur notre main et on pourrait l'utiliser, il serait intégré à notre main, quoi.
Comment sera le monde sans Internet, selon vous ?
Rien.
Comment serait le monde sans Internet ?
Il serait totalement mort puisque les cartes bleues fonctionnent avec Internet, donc il n'y aura plus rien.
Comment serait le monde sans Internet ?
Tout le monde s'ennuierait.
Ça sera un peu nul, quoi.
Pourquoi ?
On ne pourra plus communiquer facilement, on devra envoyer des lettres postales et tout ça.
On serait au courant de pas grand-chose, mais après, peut-être qu'on communiquerait plus entre nous. Enfin, les uns avec les autres.
Ah, mais comment tu fais, imaginons, pour des... imaginons, t'as un correspondant aux États-Unis. Tu fais comment pour discuter avec lui ?
Je sais pas, quoi. Par lettre.
Que serait le monde sans Internet ?
Ennuyant.
Pour vous, comment sera le monde sans Internet ?
Le monde serait chaotique, ce serait la destruction. Je pense que la guerre régnerait sur la Terre, en fait.
Il n'y aurait rien à faire.
Je ne sais pas. Il faut déjà les cartes postales pour envoyer des messages. Et puis les recherches, c'est compliqué. Il faudrait rechercher dans des dictionnaires, des livres, tout ça.
Comment serait le monde sans Internet, à votre avis ?
Ce serait compliqué parce qu'on n'aurait plus de...
La troisième guerre mondiale.
Tais-toi. On n'aurait plus de repères et on ne saura pas quoi faire.
Je pense que ce serait un peu ennuyeux parce que moi, sans mon téléphone, je m'ennuie, voilà.
Il serait... Ce serait pas aussi amusant qu'aujourd'hui.
qu'est-ce que serait le monde sans Internet ?
Le monde comme il était avant.
À ton avis, comment serait le monde sans Internet ?
Ça serait triste, parce que surtout, ça serait, on aurait moins d'informations sur la vie, sur le monde et tout ça. Et voilà,
ça changerait quoi ?
Pas mal de choses dans ma vie. Disons que je trouverais d'autres choses à faire, je sortirais plus, ça créerait des liens.
Quoi comme chose ?
Faire du sport, par exemple. Hein.
Et que sera le monde sans Internet ?
Déjà, il y aurait un peu plus de liberté pour qu'on apprenne plus à se connaître. Parce qu'on peut s'apprendre derrière un écran de téléphone, mais on pourrait s'apprendre genre en face. Et s'il n'y a pas de téléphone, ça serait ennuyant, parce qu'il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas des trucs d'Internet qu'on peut parler, se prendre en photo, parce que voilà, quoi. C'est bon.
Ce serait certainement un monde de plus sain, malgré tout, parce que, d'après moi, ça reste quand même quelque chose de complètement fictif, et on est en train de tomber aujourd'hui dans une addiction à tout ce qui est téléphone, Internet, réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui peut être dangereux, notamment avec les jeunes. Et d'ailleurs, en tant que CPE, souvent, on a des situations problématiques avec l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut être très prudent, mais qui peut être aussi très utile. Comme par exemple, quand on a de la famille qui habite loin, ça permet aussi de se rapprocher, de communiquer avec les personnes qui sont loin, etc. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant. Et ce serait un monde dans lequel on profiterait plus de l'instant présent et des personnes qui nous entourent réellement.
D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
On serait au courant de rien. On serait pas, enfin, à part il y aurait les journaux, du coup, ce serait comme avant, quoi. Enfin, ça a un peu tout changé quand même. Il y aurait toujours la télé ou pas ?
Ce serait mieux sans. Je pense pas qu'il y aurait la télé parce que c'est pas Internet là. Mais ce serait mieux ou ce serait moins bien pour toi ?
Je sais pas, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que les avantages, par exemple, justement, on est connecté, on peut voir un peu la vie des gens, la vie privée des gens, ça c'est pas forcément un avantage, mais bon, c'est comme ça. Mais sans les réseaux, sans Internet, on pourrait peut-être vivre plus ensemble. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire moins d'écran, je veux dire plus de sorties, on est plus avec ses amis puisqu'on est moins sur les écrans, ça nous occupe moins et du coup on pourrait même recommencer à lire, recommencer à faire des trucs qu'on faisait plus, quoi.
Enfin, comme c'était avant, enfin, ça serait plus compliqué, enfin je sais pas, ça fera bizarre.
Nous accueillons maintenant M. Girdari qui vient nous parler de téléphonie. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis soutien formateur chez Orange, l'opérateur de services connu de tout le monde.
Tout d'abord, nous aimerions savoir quelle est la date de création du premier téléphone portable.
Alors, le premier téléphone portable a été créé en 1973, donc bien après l'apparition des premiers ordinateurs dont on parlait tout à l'heure.
Qui l'a créé ?
C'est un certain Martin Cooper, aux États-Unis, qui faisait partie de l'entreprise Motorola.
Et vous pouvez nous dire à peu près son prix ?
Vous allez être un petit peu choqué, je pense, par le prix qui a été annoncé. C'est 3 995 $. Alors si on le convertit en euros aujourd'hui, ça équivaut à 3 500 €.
Et on pouvait prendre des photos avec ce téléphone portable ?
Non. C'est vrai que certains pourrait en rigoler aujourd'hui. Vous ne connaissez que des téléphones mobiles avec appareil photo. Mais non, ces premiers téléphones mobiles, en fait, ne servaient réellement qu'à passer des coups de téléphone. Ça peut paraître bizarre, mais...
Et quelle taille faisait-il ?
Là aussi, je pense que vous allez rire, parce qu'en fait, ce premier téléphone portable pesait 1 kg et mesurait 25 cm. Voilà, et au niveau de la charge batterie, en fait, c'est une batterie qui ne tenait que 30 minutes. Et il fallait le charger pendant 10 heures pour ça. Alors, le téléphone coûtant très très cher, à l'époque, il n'était utilisé que par les gens très riches, ou les hommes politiques, ou des gens qui avaient quand même beaucoup d'argent.
D'accord. Et quand est né le premier téléphone tactile ?
Alors, le premier téléphone tactile, lui, est apparu bien plus tard, en 1992. Donc bien après. Et ce téléphone-là intégrait un écran tactile à l'époque. Donc, c'est un écran tactile qui ne servait pas, comme aujourd'hui, à accéder à Internet et à toutes les fonctionnalités que vous pouviez y trouver. Par contre, on retrouve sur cet écran tactile les fonctionnalités qu'on trouvait sur les premiers téléphones mobiles qui n'étaient pas des smartphones. Les fonctionnalités comme la calculatrice, l'horloge, des petites choses comme ça. Voilà.
Quelle technologie utilise le téléphone portable ?
Ce téléphone portable dont on parlait tout à l'heure, utilise la technologie AMPS. Alors, ce sont des technologies de transmission sans fil, hein, évidemment. Ces téléphones mobiles intégraient des numéros de série électroniques qui remplaçaient ce que vous connaissez aujourd'hui, qu'on met dans un téléphone portable, c'est la carte SIM. Voilà, donc ces numéros-là remplaçaient la carte SIM à l'époque. Hein, et donc le AMPS que j'ai cité, c'est une norme de technologie sans fil. Vous avez beaucoup plus entendu parler en Europe ces dernières décennies des technologies comme le GSM, la 3G, des choses comme ça. Voilà, donc c'est une norme de technologie sans fil qui existait à l'époque.
Quelle était la marque du premier téléphone portable et pour le téléphone tactile ?
Alors, en ce qui concerne le premier téléphone portable dont j'ai parlé tout à l'heure, créé en 1973, son fondateur était donc un salarié de Motorola, donc la marque de ce téléphone était Motorola. Le deuxième, celui dont je parlais, le premier téléphone tactile, datant de 92, était de marque IBM. Voilà. Le mobile s'appelait IBM Simon.
Où a-t-il été créé ?
Le premier smartphone de 92 a été créé par l'entreprise IBM aux États-Unis, à Las Vegas.
De quoi est composé un téléphone portable ?
Un téléphone portable est composé principalement de composants électroniques. On parlait tout à l'heure de l'apparition du premier ordinateur sur lequel les composants électroniques, les tout petits composants que vous connaissez, avec lesquels vous avez pu peut-être travailler au collège, n'existaient pas à l'époque du premier ordinateur. Par contre, les smartphones et les téléphones portables sont des objets bien plus petits et vous avez à l'intérieur, vous retrouvez des cartes de composants électroniques et des petits composants que vous utilisez peut-être au collège en électronique.
L'utilisation du téléphone portable a-t-il un impact sur notre environnement et notre santé ?
Oui. Si on parle du téléphone portable en tant que tel aujourd'hui, l'utilisation, la fabrication de tous les composants électroniques ont un impact écologique, hein, sur la planète. Clairement, c'est pour ça que vous entendez parler de plus en plus de recyclage des mobiles, puisqu'en fait, on réutilise tous les petits composants électroniques dans les mobiles pour refabriquer d'autres téléphones ou d'autres objets électroniques. Et l'impact écologique et l'impact sur notre santé, c'est principalement les ondes. Vous avez dû entendre qu'on ne conseille pas de passer trop de temps au téléphone, avec le téléphone proche de l'oreille. Voilà, des petites consignes comme celles-là qui sont en rapport tout simplement avec les ondes qui ont un impact sur notre corps, voilà, et le fonctionnement du corps humain.
Quelles nouvelles fonctions pourraient être créées sur nos téléphones ? Comment pourrait-il évoluer ?
Très bonne question. Alors, travaillant chez Orange, j'ai écho de plein de choses, de nouveautés que les gens ne connaissent pas encore. Mais on pourrait imaginer que les téléphones mobiles pourraient être connectés à tout ce qui nous entoure. On parle d'objets connectés. Vous avez dû entendre parler de ça. On parle aujourd'hui des montres connectées. Mais dans le futur, vous ne trouverez pas que des montres connectées. Vous trouverez plein d'autres choses connectées. N'importe quel objet pourra être connecté au réseau. Et je pense que le téléphone mobile deviendra, alors on ne sait pas à quoi il ressemblera dans 10 ans, dans 20 ans, mais deviendra le principal outil du quotidien pour tout votre quotidien et du fait que tous les objets du quotidien rentreront dans le monde du connecté.
Merci Monsieur Girdari d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Avec plaisir, merci à vous.
Écoutons maintenant le titre Carmen de Stromae. Nous revenons vite avec une dernière interview sur l'histoire d'Internet. Et nous vous parlerons ensuite de nos youtubeurs préférés, ceux qui nous font rire ou nous inspirent. A tout de suite.
Les morceaux initialement diffusés lors du direct à Radio Mon País ont été ici enlevés pour des questions de droits d'auteur.
C'était Carmen de Stromae sur Radio Mon País. Vous écoutez toujours Radio Mikado et nous continuons avec la suite de notre micro-trottoir high-tech.
Quand a été créé Internet ?
1900.
Quand a été créé Internet ?
Je sais pas, il y a longtemps.
Quand a été créé Internet ?
1901.
Mais là, je suis en 2017.
Bien sûr.
Je sais pas, moi.
En 2012.
Ouais, je sais.
En 2001, attends, en 2001.
Quand a été créé Internet, après vous ?
En 1850.
Quand a été créé Internet, d'après toi ?
Je sais absolument rien, je pense dans les années 1980.
Internet a été créé en 1992.
Non. Si, 72.
En 1998.
En 1952.
Moi, on suppose.
En 1982.
Oui, tu étais presque.
Dans les années entre, je crois, 1990.
Bonjour.
Bonjour.
Pour toi, quand a été créé Internet ?
Dans les années 1990.
Je pense que ça a été créé entre 1970 et 1980.
Quand a été créé Internet ?
Dans les années 1970.
Quand a été créé Internet ?
Je sais pas. Il y a longtemps.
Quand a été créé Internet, d'après toi ?
Les oreilles.
Il y a longtemps, mais dire 1983.
D'après toi, quand a été créé Internet ?
Dans les années 1600.
Internet, ça a été inventé en...
Moi, je connais la date.
1900.
Ah, c'est presque. Ouais, 70.
Allez, vite.
1972.
Quand a été créé Internet ?
J'en ai aucune idée. Si, dans les années... Non, Internet, j'en ai aucune idée.
Combien de temps passez-vous sur les ordinateurs ?
Je passe entre 2 à 3 heures.
Combien de temps passez-vous devant les écrans ?
H24.
Plus de 3 heures par jour, sans compter ma musique.
3 heures ?
Même pas un peu plus ?
3 heures et demie.
Combien de temps passes-tu devant les écrans par jour ?
Pas beaucoup, je dirais une heure quand même.
Combien de temps passez-vous devant les écrans ?
Environ 2 heures par jour.
6 heures environ.
À peu près 4 heures, 5 heures.
Je 24 heures sur 24, même en cours, des fois je sors mon téléphone pour pouvoir regarder les réseaux sociaux, Instagram et tout, voilà.
Merci.
Combien de temps vous passez devant un écran ?
Je sais pas, toute la journée.
C'est-à-dire toute la journée, parce qu'il y a les cours quand même.
Dès que j'ai fini les cours, je fais mes devoirs et après je reste jusqu'à mon téléphone jusqu'à que je dors. 2h30 par jour.
8h.
Pas trop longtemps, mais surtout en fait je passe plus de temps à écouter de la musique que traîner dessus.
1h ou 2.
Je passe environ 2 à 3 heures.
Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Albin.
Combien de temps passes-tu devant les écrans ?
2, 3, 4 heures.
5 heures.
Combien de temps vous passez devant les écrans ?
Je passe la moitié de mon temps.
Combien de temps vous passez devant les écrans ?
Beaucoup. Entre les téléphones, les ordinateurs, beaucoup.
Je passe ma journée devant un écran parce que si j'ai pas Snapchat ou des trucs comme ça pour écouter la musique, je peux pas vivre en fait.
Vous écoutez toujours Radio Mon Pays sur le 90.1 FM. Nous sommes de nouveau avec Madame Lérante, professeure de technologie au collège Vauquelin, à qui nous allons cette fois poser des questions sur l'histoire d'Internet. À quoi ressemblait Internet au début ?
Alors Internet, en fait, au départ, on n'appelait pas ça Internet, en fait. Il y a eu un besoin, hein, comme tout objet technique, hein, qu'on crée, enfin, est à l'origine d'un besoin. Donc là, c'était pour permettre la communication, en fait, entre chercheurs. Ils se sont dit qu'il fallait pouvoir relier leurs ordinateurs entre eux pour pouvoir communiquer les données. Donc au départ, c'était deux ordinateurs qui étaient connectés. Puis après, on s'est dit, on va en connecter trois, puis quatre. Et là, c'était à l'intérieur d'un même bâtiment. On ne s'était pas imaginé pouvoir connecter les ordinateurs dans le monde.
Pourquoi a-t-on créé Internet ?
Que l'idée, c'est de pouvoir communiquer des données à travers les ordinateurs, en fait. Donc, deux, puis trois. Puis ensuite, on s'est dit, pourquoi pas communiquer avec d'autres pays, pouvoir échanger des données. Dans un premier temps, c'était pour pouvoir travailler, échanger, faire de la recherche. Et ensuite, voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est une véritable banque de données ouverte à tous, en fait.
Qui a créé Internet ?
Alors, on va dire que l'Internet a ses origines aux États-Unis, avec le MIT, hein, l'Institut de technologie du Massachusetts. Hein. Et on peut parler d'Internet avec l'ARPANET, en fait, dans les années 60.
Quand Internet a été créé ?
Alors peut-être qu'on peut parler véritablement d'Internet dans les années 80, véritablement l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, qui était les prémices un peu de la diffusion de l'information au grand public, on va dire.
Oui, je me permets de rebondir. Oui. C'est vrai qu'on parle de l'arrivée d'Internet dans les années 80. Je pense que la diffusion au grand public est arrivée quelques années plus tard, on va dire une décennie plus tard. Et les travaux qui ont été faits dans les années 80 étaient des travaux orientés pour le monde des entreprises, pour l'échange justement entre chercheurs, entre entreprises. Et ça s'est vraiment démocratisé dans les années 90.
Oui, c'est vrai, puisque je me souviens maintenant de l'arrivée d'Internet chez moi, en fait, hein, au départ. Donc c'est vrai que ça pouvait être dans les années 95, 96, où on avait Internet et on avait droit à aller un petit quart d'heure de connexion Internet, parce que c'était très très cher à l'époque. Et donc, on mettait la minuterie à côté quand on se connectait pour aller chercher des informations, des données. Et vite, on se disait, le quart d'heure est passé, vite on éteint, on coupe et on se reconnaîtra demain peut-être.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne connaissent pas cette époque ne connaissent pas l'Internet non illimité. Puisque aujourd'hui, on est sur l'ouverture au monde Internet en permanence et tout le temps et sans déconnexion. À cette époque-là, l'Internet n'était pas accessible en illimité. Il y avait un temps de connexion.
Déjà le temps de connexion, le haut débit aussi. Parce qu'à l'époque, pour charger un fichier, ça pouvait mettre longtemps. Donc on était loin d'imaginer pouvoir regarder un film, regarder une vidéo, écouter de la musique. On le faisait pas, quoi. Voilà.
Et comment les jeunes faisaient avant Internet ?
Ça, c'est une question, une belle question existentielle. Comment faisait-on avant Internet ? Je parle des questions existentielles parce qu'aujourd'hui, on reproche aux gens qui sont connectés à Internet en permanence de ne pas arriver à se déconnecter et à profiter des gens qu'ils ont à côté ou d'échanges verbaux ou de la lecture ou de choses qui paraissent classiques. Mais pour répondre à la question, je pense qu'avant Internet, les gens se parlaient, tout simplement. Se parlaient, faisaient des activités, des activités loisirs et autres, qui n'avaient pas de rapport avec Internet. Voilà, qui n'avaient pas de rapport avec des échanges à l'autre bout du monde.
Alors, je rajouterais juste que, par exemple, pour travailler à la maison, parce qu'il y a des devoirs aujourd'hui qui nécessitent Internet, hein, on y va directement dessus. À l'époque, il fallait se rendre dans une bibliothèque, pouvoir trouver des livres, et puis il fallait trouver le temps. Donc, il fallait soit être habité à côté, soit il fallait demander à nos parents de nous y accompagner. On nous y laissait pendant toute l'après-midi, parce qu'on allait, les parents, ils n'allaient pas nous attendre. Hein, donc, on était dans les bibliothèques tout l'après-midi à chercher des bouquins, travailler. Et puis, il fallait qu'on trouve tout, parce que si on rentrait le soir qu'on n'avait pas tout trouvé, on n'avait pas moyen d'y retourner tous les 5 minutes à cette bibliothèque. Il fallait acheter des livres, il y avait des encyclopédies, il y avait ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout à portée de main à la maison, directement.
C'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver une information, vous allumez votre smartphone ou vous connectez à un ordinateur. Avant Internet, on ouvrait un livre ou une encyclopédie. Voilà.
Qu'est-ce que le Minitel ?
Le Minitel, en fait, c'est un moyen d'aller chercher quelques données grâce au réseau téléphonique. Donc, c'est un, Concrètement, c'est si je dois vous le décrire, ça ressemble à un petit ordinateur.
C'était exclusivement français en plus. Hein. C'est que français dans les années 80-90. Mais moi, je me souviens l'avoir vu arriver aussi. Moi, je cherchais juste les numéros de téléphone, en fait, avec. Ça servait, enfin, moi, je ne m'en servais pas pour autre chose. Et si, peut-être pour voir mes résultats du bac. Mais voilà.
Comment serait le monde sans Internet aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas, peut-être que vous aussi, vous pourriez répondre aussi, hein, puisque vous avez Internet, imaginez un seul instant, si vous ne l'aviez pas, nous, on l'a vécu. On sait aussi l'avantage d'avoir Internet aujourd'hui, on sait ce que c'est de ne pas l'avoir, on voit les avantages et inconvénients, mais vous, imaginez un seul instant.
Le monde serait ennuyeux. Ennuyeux dans le sens rien à faire, mais sinon, quand on n'a pas de projet et tout, généralement, on va sur notre tel, mais là, on n'aura rien à faire. À part parler aux parents, mais je crois pas qu'ils sauront grand-chose.
Donc en fait, voilà, pour vous, Internet, c'est votre compagnon de tous les jours, en fait.
La raison de vivre.
Votre raison de vivre, carrément.
Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ça. Mais c'est vrai que à l'âge que vous avez, j'entends dire que le seul échange que vous pourriez avoir, c'est avec vos parents. Il faut vous dire quand même que avant Internet. C'était un petit peu le cas. L'âge de la majorité, alors on va pas parler des anciennes, des très anciennes années, mais l'âge de la majorité c'est 18 ans. Et c'est vrai qu'avant de partir du foyer, avant de partir de chez papa et maman, jusqu'à 18 ans, sans internet, les principaux interlocuteurs que l'on avait, c'était les parents. Donc on avait beaucoup plus d'échanges avec les parents, beaucoup moins d'échanges avec l'extérieur. Et ça se passait très bien. En fait, c'était une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, moi, j'arrive à comprendre. Je suis un peu entre deux générations, donc j'arrive un petit peu à comprendre ça. Et si je dois répondre à la question, sincèrement, moi qui suis plongé dans le milieu des nouvelles technologies, j'ai... Alors, pas pour les mêmes raisons. Je pense pas que ça serait un monde ennuyeux, mais je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous apportent tellement de choses et tellement de bonnes choses... qu'on pourrait pas imaginer un monde aujourd'hui sans ça. Mais bon, après...
Par contre, je dirais qu'il faut y faire un peu attention, parce que du coup, quand les enfants, vous rentrez à la maison, on va dire que l'extérieur a envahi le quotidien et la vie privée. C'est-à-dire que vos amis, vous les amenez à la maison, en fait, avec votre téléphone. Vous continuez de communiquer avec eux, vous continuez de communiquer avec le monde extérieur, alors que vous pourriez effectivement vous centrer sur les discussions effectivement avec vos parents, vos frères, vos sœurs... plus que de communiquer ou d'être sur votre téléphone.
Je suis tout à fait d'accord. C'est une utilisation raisonnable. Voilà. Mmh. Raisonnable et limitée. Il faut savoir faire la part des choses et voilà.
Comment Internet pourrait évoluer ?
Moi, j'ai évoqué tout à l'heure les évolutions par rapport au téléphone mobile. Dans tous les cas, les deux sont liés, Internet et le mobile, puisqu'aujourd'hui, si on vous donnait clairement un smartphone sans accès Internet, ça vous servirait pas à grand-chose, je suppose. On a déjà eu des réponses. Si on vous donnait accès à Internet via un ordinateur fixe à la maison sans smartphone, vous ne pourriez pas bouger. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est très compliqué, donc on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, tout à l'heure, je parlais pour les téléphones mobiles des objets connectés. Clairement, aujourd'hui, Internet va nous permettre, via le téléphone mobile, d'accéder à toute info, tout le temps et partout. Et voilà, et donc, l'Internet de demain, j'entendais parler tout à l'heure au début de l'interview, ça n'est plus vous qui allez chercher l'information sur votre smartphone. C'est l'information qui viendra à vous. Donc, vous n'aurez même plus besoin d'allumer votre smartphone. Vous réveillerez le matin avec...
Vous avez déjà un peu ça avec les notifications. Donc, vous avez déjà ça.
Et c'est ce que cherchent justement les créateurs d'applications, les gens qui travaillent sur le web. C'est justement de... Alors, je vais le dire de manière un peu péjorative, d'essayer de trop envahir votre quotidien. C'est vraiment... Vous donner des infos en permanence et voilà. Donc, c'est le début.
Influencer, en fait, votre vie, en fait, via ce téléphone. C'est-à-dire que vous n'auriez peut-être pas pensé, et puis d'un seul coup, sur votre téléphone, on vous donne l'information. Je vais aller à cet endroit-là acheter ce qui me manque, puisque mon téléphone me dit que dans le frigo, il me manque un yaourt, par exemple.
il faut faire attention, faut faire quand même attention à l'utilisation d'Internet et des smartphones et remettre de temps en temps les pieds sur terre.
Voilà.
Internet a permis la naissance de nouveaux métiers. Quels sont-ils ?
Des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, 15 ans, sont des métiers justement sur ces choses-là, sur la recherche de comment fournir l'information plus vite. On parlait de notions d'augmentation des tailles mémoire, des mémoires des ordinateurs. Donc des gens qui travaillent dans le développement de sites web,
De plus en plus d'objets connectés. Donc de toute façon, on va développer ce type d'objets, d'applications mobiles, mais aussi d'applications web en fait. On va de plus en plus peut-être automatiser les objets et du coup d'avoir des personnes plus qualifiées sur la réparation en fait de ces objets connectés. Donc il va y avoir forcément des métiers qui vont se créer autour de comment réparer, appréhender ou fabriquer même ces objets connectés.
Selon vous, quelles sont les nouvelles pratiques des jeunes sur Internet ?
Là, c'est peut-être vous qui savez en parler, du coup, des pratiques des jeunes sur Internet.
Regarder des vidéos.
Écoute de la musique, des jeux vidéo.
Les réseaux sociaux.
Voilà.
Télécharger des jeux vidéo, des applications.
Télécharger des images. Jouer à des jeux.
Regarder les informations du monde. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et du coup, sur le téléphone, on regarde et on connaît. Ou sinon, on peut communiquer avec les gens d'autres pays ou d'autres continents. La famille, par exemple. Et voilà.
Mais aussi, avec Internet, on peut apprendre de nouvelles langues.
Ouais, c'est très bien. Il y a plein de...
Oui, c'est sûr qu'il y a plein de... Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut y faire très attention, quoi.
Vous avez remplacé, j'ai l'impression que pour la partie... loisirs, vous avez remplacé en fait les livres qu'on avait avant par les vidéos, par la musique, etc. Mais après, il y a plein de choses qui sortent, qui sont bien. Hein. Ouais. La recherche d'informations sur le monde, la communication avec les gens, l'apprentissage de nouvelles langues. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas que les vidéos, les jeux, etc. qui vous intéressent sur Internet. Et c'est ça que moi je trouve bien. C'est qu'il faut qu'il y ait d'autres idées que tout ça, que les vidéos, les jeux...
C'est l'ouverture sur le monde. C'est vrai que ça laisse envisager une ouverture bien plus importante que celle qu'on avait, nous, à l'époque, à travers les livres. C'est vrai que vous avez des images, des contacts avec des gens avec lesquels vous ne pourriez pas rentrer en contact si ça n'existait pas, c'est clair.
Merci, Madame Lirante et Monsieur Giredari, d'avoir répondu à nos questions. Je laisse maintenant la parole à Abdallah.
Bon, pour toi, comment sera l'ordinateur de demain, Albin ?
Je sais pas trop, je pense que ça serait, comme ils l'ont dit, ça servirait tout le temps. Il y aurait des messages qui nous enverraient tout le temps sur chaque information, dans le pays, dans le monde.
On sait que les ordinateurs d'aujourd'hui polluent beaucoup. Et comment on pourrait les rendre plus écologiques ?
Très très bonne question. Très très bonne question. La notion d'écologie, comme je le disais tout à l'heure, elle est de plus en plus importante aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on ne pourra pas se passer du téléphone portable dans les années qui viennent. On va devoir en produire et encore plus en produire, et d'où le recyclage. Je parlais tout à l'heure du recyclage.
Pour éviter l'obsolescence programmée.
Exactement.
Voilà,
faire en sorte que...
que les objets durent plus longtemps et qu'on ne fasse pas qu'on tombe en panne rapidement pour en racheter d'autres.
C'est ça.
Donc, déjà.
Et pour toi, Arnaud, comment on pourrait le rendre plus écologique ?
Sincèrement, je sais plutôt rien. Je sais pas exactement comment ça fonctionne déjà, donc si vous pouviez m'expliquer par exemple.
Non, mais on en revient à cette notion-là de dire que les smartphones, bon, vous savez comment ils fonctionnent justement, vous les utilisez tous les jours, mais on en revient toujours à la façon dont ils sont construits. Et les matériaux avec lesquels ils sont construits demandent beaucoup de ressources écologiques. Et du coup, peut-être effectivement que le fait de les faire durer un petit peu plus longtemps serait très intéressant, quoi.
Et comment sera pour toi l'ordinateur de demain ?
Pour moi, l'ordinateur de demain, il n'y en aura pas. Il aura été remplacé par des hologrammes ou des smartphones beaucoup plus intelligents. Il n'y en aura plus.
Merci.
Merci Abdella pour ce débat passionnant. Ils sont les stars d'Internet et des réseaux sociaux. Ils nous font rire ou nous conseillent. Nous vous présentons maintenant des youtubeurs plutôt stylés.
Bonjour, Parody World, c'est un youtubeur toulousain qui a 14 ans. Il fait des vidéos de critiques marrantes, de clips et aussi d'astuces pour télécharger des musiques. Il a créé sa chaîne il y a 2 ans. Il fait des vidéos humoristiques depuis 6 mois. Il a passé la barre des 60 000 abonnés il y a très peu de temps. Il peut faire jusqu'à 2 millions de vues par vidéo. Si vous aimez rigoler des clips de stars, courez voir sa chaîne. Vous allez sûrement mourir de rire.
Hey, Mastu est un youtubeur qui a 450 000 abonnés.
Mastu est un youtubeur de 20 ans qui a participé récemment au Fanta Game Show et participe à la Redbox. Ses vidéos dans sa voiture ont fait le buzz avec son humour trash.
Sa musique préférée est Natacha de Patrick Sébastien.
Oui, c'est un bof.
Si vous voulez avoir la banane, bien rigoler et chasser le bestiaux, regardez Mastu.
Angie raconte, elle a 30 ans, son vrai nom est Nadège Dabrowski. Elle a 3,2 millions d'abonnés et elle a une seconde chaîne qui s'appelle So Angie, arrêtée en octobre 2015. En juillet 2016, elle est la deuxième youtubeuse féminine française devant Enjoy Phoenix et derrière Natou. Et la troisième au classement des youtubeuses françaises les plus suivies. Elle fait des vidéos humoristiques dans lesquelles elle donne des astuces, mode et déco. Elle fait aussi des parodies de personnages tels que la chieuse ou l'insociable. Si t'as le moral à zéro, va vite voir Andy raconte.
Jojol, c'est un youtubeur de 30 ans qui fait des vidéos high-tech, surtout de Apple, et des vidéos techniques qui présentent les derniers produits. Il est à Paris, il a 1 million d'abonnés et au moins 1,5 million de vues par vidéo. Si vous voulez être au jus de toute l'actualité high-tech, regardez Jojol.
Salut tout le monde, le sujet sera Natou sur YouTube. Natou qui a 4 millions d'abonnés, habite à Paris et adore les licornes. Tu déprimes? Tu veux rire? Regarde Natou. Dans ses vidéos comiques, on s'y reconnaît souvent. Elle est parfois accompagnée de ses chiens, son compagnon et sa mère. Natou fait des clips et c'est elle qui a créé la chanson « Je sais pas danser et j'aime les licornes ». Voilà, c'était Natou, la première youtubeuse humoristique de France. Au revoir!
C'est déjà la fin de l'émission Mikado. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses. C'était l'émission Mikado, la radio des ados. Et pour plus de fun, rendez-vous sur radiovauclin.fr.
Mikado, la radio des ados, la radio des ados.
L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle a été réalisée en partenariat entre Radio Monde País et l'Association d'éducation aux médias, au monde numérique et à la libre expression, Média Commun Occitanie. Elle est classée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.